Salut l'équipe, vous le savez, c'est la saison des playoffs, mais c'est aussi la saison des interviews sur First Team quand les saisons régulières se terminent. Il y a des gens en vacances avant d'autres et on en profite quand on a la chance de pouvoir les accueillir dans notre studio. Aujourd'hui, Thomas, on est ravis hein, parce que ça fait longtemps, très longtemps qu'on l'attend, presque au moins un peu plus d'un an.
Plus d'un an, parce que l'année dernière, on a essayé de l'avoir, mais visiblement, il n'était pas prêt. Aujourd'hui, il l'est. Donc, ravi d'accueillir Bilal Koulibaly.
Ah, merci. Ça me fait plaisir aussi d'être là avec vous. J'ai beaucoup regardé les vidéos, etc. Donc, vraiment, c'est cool.
Léna, tu nous avais dit ça quand on t'avait croisé avec les Mets. Tu nous dis, mais moi, je regarde depuis très longtemps. Et on nous avait dit, bah, viens. Et en fait, Issa et comme soir, ils disent, non, il n'est pas prêt. Et apparemment, si tu étais venu, bah, tu aurais été drafté au deuxième tour. Donc, c'est peut-être mieux que tu ne sois pas venu.
Peut-être, ils ont peut-être fait le bon choix, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, on est ravi de te voir. Et puis, finalement, te voir avec une année de NBA dans les pattes, ça va être intéressant. Parce qu'on a plein de choses à te demander. La première chose, c'est comment ça va, la santé, le poignet?
Ah, ça va beaucoup mieux. J'ai enlevé mon plat il y a maintenant une semaine et voilà, je vais reprendre la réhab, etc. Et d'ici deux semaines, je devrais être opé.
Pas d'opération, il y a eu donc, c'est ça?
Non, pas d'opération, juste immobilisation dans un plâtre et puis voilà.
Pas d'opération, t'es revenu en France là pour voir la famille, pour digérer un petit peu tout ça et tu repars aux États-Unis pour t'entraîner? Pour les JO, j'imagine, mais pour t'entraîner, te réhabiliter, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Je vais repartir pour faire de la réhab, que de la réhab, basket, poids, etc. Recommencer à tenir des choses avec ma main, quoi. Et voilà, donc on verra comment ça.
Donc on n'a pas à être inquiet, ça va, tout va bien.
Non, ça ira. D'ici deux semaines, trois semaines, je suis OP.
On peut revenir sur cette vilaine faute de DeMar DeRozan. J'ai été surpris. C'est pas le genre de la maison de DeRozan de faire ça. C'est pas un dirty player, mais là, pour le coup, c'est moche ce qu'il a fait. Comment tu l'as vécu, ça?
Bah, très mal, franchement. En plus, il menait 30 points, c'était un petit lieu, bon, ça leur aurait pas fait tant de mal que ça. Donc, ouais, j'ai vraiment pas compris. Et en plus, même pas d'excuses, etc. Donc, ouais, c'était vraiment dommage, quoi.
C'est vrai qu'il a pas la réputation de ça. Nous, on a tous un gars plutôt smart, bonne réputation. Ouais. Il l'a fait juste après avec Jalen Green.
Ouais, exactement. C'est ça que j'allais dire. Moi aussi, je pensais que c'était un gars tranquille, mais bon, on dirait pas. Hein. On dirait pas.
Il t'a même pas envoyé un petit message.
Ça reste un mec du hoot de LA, mais en tout cas, dans sa carrière, de joueur, on n'avait pas l'habitude de.
Un petit texte pour dire sorry, bro, ça suffit, hein.
Rien du tout,
aucun contact.
En plus, on a rejeu contre eux après, il allait peut-être venir. Non. Oh. Rien du tout.
Bon, on va cocher l'année prochaine la date, le prochain match entre les Wizards et l'équipe de DeRozan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
On sait qu'il est free agent et qu'il pourrait partir, mais on n'est pas là pour parler de cet assassin de DeMar DeRozan. Avant qu'on aille sur l'aspect basket, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur le changement de vie que ça a été pour toi d'être drafté, d'aller jouer à NBA. Parlons un petit peu de la différence. Tout l'année, on te croisait, tu venais tout seul avec ton sac à dos dans les rues de Levallois. Ouais. Aujourd'hui, tu es un joueur NBA reconnu dans le monde. Parlons un petit peu de ce changement de statut, ce changement de vie.
Ouais, c'est vrai que c'est bien différent. Hein. Bah, je marchais pour venir à Levallois tranquillement, j'étais à deux minutes et là, c'est mort, je peux pas marcher. Hein. Je peux pas marcher, j'ai mon chauffeur partout. Même quand je vais faire des petites courses, on m'arrête, c'est bon. Maintenant, je prends plus de risques. Ouais, tout le temps avec mon chauffeur, sécurité et puis voilà, comme ça, je suis tranquille.
Souvent, avec Kevin Serafin, qui a joué 7 ans à NBA, on parle du fait que pour les sportifs de haut niveau, c'est un tunnel. Ouais. Du moment où t'es jeune, etc., jusqu'à la NBA, jusqu'à la fin de carrière, t'as l'impression de pas voir ce qui se passe. Est-ce que toi, depuis 2 ans et ton ascension de folie, depuis le match de contre Brony à Nanterre, où certains t'ont découvert, la saison avec les Mets, bien sûr, t'as drafté cette saison, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de vivre, tout simplement, de la chance que t'es en train de vivre?
Bah, je crois que je suis en train encore de réaliser, parce que j'ai pas vraiment réalisé totalement, hein, parce que ouais, c'est vrai que c'est passé tellement vite, le match de Brony, j'avais vu qu'après ça avait fait un vrai buzz. Je voyais même les réseaux sociaux, les abonnés, ça montait, les messages, tout le monde envoyait des messages et tout. Mais pendant la saison, j'étais tellement dans la saison que bah, j'étais même pas, franchement, je pensais même pas vraiment à la NBA et tout. Je me disais, bon, c'est bien, ça va arriver l'année prochaine, mais pour l'instant, je finis ma saison, on va voir si on peut gagner et tout. Et ouais, c'est passé super vite. Là, je me retrouve en NBA, 7e choix comme ça, d'un coup, tout était vraiment très 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 rapide. Mais ouais, je kiffe le moment.
Du coup, à partir de quand? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, que t'as pas eu le temps de vraiment de penser à la NBA, alors qu'on sait que certains y pensent depuis qu'ils ont 15 ans, mais avec le vrai projet d'y aller. toi, à quel moment tu t'es dit, bon, bah là, apparemment, là, ça sent bon, je vais
vraiment. Il y a moyen moyenné.
Je vais vraiment y aller. C'est plus qu'un rêve c'est plus qu'un rêve d'adolescent.
Ouais, je pense que c'était après mes premiers matchs espoirs, après mes premiers bons matchs espoirs, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de sollicitations de la part des agents, des coachs, etc. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire niveau pro. Et après, quand j'ai vu qu'avec les pros, j'ai commencé à avoir des minutes et tout, je commençais à bien jouer, quoi, à faire mes trucs. J'étais à l'aise sur le terrain, je forçais pas. Je me disais, bon, bah, finalement, bah, ouais, il y a un truc à faire, quoi. Donc, c'est à partir de là, je me suis dit, j'ai commencé à me donner vraiment à fond pour y aller.
La vie à Washington, quand t'arrives, justement, quand on est drafté comme ça, t'as de la famille qui est venue vivre avec toi pour faciliter cette transition?
Ils vivaient pas vraiment avec moi, mais ils faisaient tellement d'allers-retours que c'est comme s'ils étaient avec moi, en fait. C'est comme s'ils vivaient avec moi. Ouais, j'étais très rarement seul. Parfois, je pouvais faire une semaine tout seul, mais pas plus. Ouais. C'était sur des déplacements, des trucs comme ça, sinon ils étaient toujours là.
Les franchises veillent à ce que tu sois bien entouré aussi, à ce que ça se passe bien, savoir si le soir c'est ok, comment ça va. Les franchises sont ouvertes à ça, ou alors c'est juste vraiment, bah, tu viens à l'entraînement et puis le reste, peu importe, une fois que c'est fini.
Ah non, ouais, ils sont vraiment, ils appellent tout le temps et tout, ils t'envoient des messages, que ce soit, ouais, la franchise, les coéquipiers, tout le monde, pour savoir si t'es bien, si t'as besoin de quelque chose. Et ouais, même quand mes parents ils venaient, ils s'assuraient que les billets ils soient bien pris, ils s'assuraient de tout, quoi, les hôtels, s'ils venaient chez moi, tout.
C'est-à-dire que quand on va venir te voir, nous aussi, ils vont s'assurer que les billets soient bien pris.
En plus, je dormais dans la même chambre avec deux lits, hein, mais
ok, on va s'organiser. Non,
je vais pas lui faire ça, je ronfle beaucoup trop fort.
Ah ouais, non, moi je peux pas.
Non, t'inquiète, ouais, je vais pas t'infliger ça.
Washington, c'est la première fois de ta vie que tu vis tout seul, ou en France t'étais déjà?
Ouais, l'année dernière j'avais mon petit appart l'année dernière, j'étais vraiment seul, mais bon, j'étais à 30 minutes de chez ma mère, donc oui. J'y allais quand je voulais, mais là, ouais, c'était bien différent. Ouais.
Et alors, c'est quoi les plus grands changements entre la vie dans le 92 à Paris, etc., et faire le grand saut là, comme ça, en quelques semaines, dans la capitale des États-Unis? C'est quoi les plus grosses différences?
Bah, déjà, rien que le fait de parler anglais tous les jours, peu importe que tu croises, même quand tu prends, je sais pas, des voitures, des Uber, des trucs comme ça, tout le temps tu dois parler anglais. Alors qu'ici, bah, j'étais à l'aise, quoi, français, je connaissais toutes les rues de Paris, etc. Là-bas, je découvre encore. Ouais, hein, grosse différence en vrai.
Alors justement, tu parles de l'anglais.
Parle-moi de ça, parce que
moi, quand même, j'ai été bluffé. Moi, tu as dû entendre quelques interviews que j'ai faites en anglais. Bon, on y arrive, mais
ça va.
Vaut mieux poser des questions.
On y arrive, quoi, tu vois. Mais toi et Victoire, l'année dernière, on a quand même découvert deux mecs bilingues, accent fluide.
C'est Bilal, lui, Erwan.
Hein? Oui, c'est bilingue. Pas mal. Il y a une bonne ambiance dans ce. T'étais plutôt bon élève en anglais, ou c'est quelque chose qui est venu aussi naturellement?
Anglais, j'ai toujours aimé en vrai. Hein. Même à l'école, j'avais tout le temps des bonnes notes et tout. Après, l'anglais qu'on parle, bah, aux États-Unis, l'anglais de l'école, c'est pas la même chose, tu vois. C'est juste que j'aimais trop la culture. Je regardais trop de vidéos, réactions sur les matchs NBA et tout. Donc, ma mère, elle peut dire, je la saoulais toute la journée avec. Et ouais, du coup, c'est venu comme ça. Hein. La musique aussi, j'écoutais vraiment les paroles, etc. Et c'est venu naturellement.
Donc là, tu me dis que c'est pas un anglais de travail, c'est un anglais de kiff en grandissant tranquille.
Ouais, c'est vraiment ça, en vrai.
Parce que sur les premières interviews où la franchise des Wizards te met franchement en avant et tout, donc nous, on est ravis, mm-hmm. On découvre que t'es pas que bon en anglais, t'es à l'aise en anglais. Ouais. C'est pas la même chose. Nous, franchement, j'étais archi surpris. Tu me dis que ça, c'est pas du travail, t'as pas eu un
le mic-up, le mic-up là que tu fais à l'entraînement.
C'est incroyable. Ouais.
Mais attends, en fait, je me dis, mais en fait, ça fait 10 ans qu'il a NBA, et c'est le daron de la franchise, en fait. Il est là, facile, parle au mec, tout fait des petites phrases, des allusions, et tout. Je suis, non, mais attends.
Tout le monde en a parlé, ce mic.
Ben oui.
Moi, t'es choqué. Moi, je sais pas, c'était naturel, en vrai. J'étais comme si, bah, j'étais pas mic'd up, quoi. Je parlais avec mes gars, tranquille, on s'entraînait, et voilà, quoi. Je kiffais, c'était tout.
Okay. Ça, c'est vu.
Chez les Mets, vous parlez déjà beaucoup en anglais aussi.
Ouais, aussi. Ça facilite. Ouais, il y avait tellement d'Américains dans l'équipe, avec les Devontae Jones et tout, que, ouais, en plus, c'était des très bons gars. Du coup, on rigolait ensemble, on avait déjà un peu tu vois, les comme tu dis, tu vois, les expressions et tout. Donc, ouais, c'était un kiff.
C'est vrai que jouer avec des Américains, c'est la meilleure école qui puisse être.
Bah, les anciens joueurs professionnels parlent souvent bien anglais, en tout cas, tiennent des échanges, puisque c'est ton quotidien aussi, même quand tu joues en France. Donc,
oui, Stephen Brun parle très bien anglais, alors qu'il a arrêté l'école en CE2, tu vois, par exemple. on l'embrasse, bien sûr.
Une question pour toi un peu plus tard, d'ailleurs.
on va aller sur l'aspect du jeu maintenant, sur l'aspect basket, évidemment. Ouais. C'est aussi ça qui nous intéresse. On a encore été bluffé cette année par un peu comme la saison dernière, seulement que là c'est plus en pro AC, en NBA, c'est ta faculté à jouer ton jeu peu importe le contexte.
Ouais, c'est ça. Bah après, c'est pour ça qu'ils m'ont pris, je pense, parce qu'ils savent que j'ai un jeu, j'arrive à m'adapter un peu à toutes les situations. Et ouais, je force pas, hein, c'est un peu au feeling, tu vois. Pas besoin de forcer. Les mecs, ils savent me trouver. Donc franchement, sur le terrain, j'étais à l'aise. Hein.
Moi, je comprends que tu te mets pas de pression quand tu joues au basket, tout simplement, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'endroit où tu joues, et que ouais, c'est facile pour toi de jouer au basket même en NBA.
Ouais, c'est un kiff. Moi, je me prends pas la tête, ça sert à rien, parce que quand je mets la pression, je sais que je vais faire n'importe quoi sur le terrain. Donc ça sert à rien. Je me dis, vas-y, tu vas, tu joues ton basket et puis tranquille. Et après, bon, quand je sais que je fais un peu n'importe quoi, je me mets violence, mais ça va en vrai, tranquille.
Est-ce que tu as senti quand même une différence de vitesse, une différence athlétique, une différence de... C'est quoi quand tu arrives là-bas, tu dis, oula, ça va plus vite, il va peut-être falloir que je m'y colle, ou en fait, ça vient juste naturellement?
Bah, il y avait quand même une différence hein, au début, hein. Surtout en Summer League, parce que tu vois, les gars, ils étaient un peu acharnés, ils couraient partout, à peine ils prenaient le rebond, ils étaient déjà de l'autre côté du terrain.
Donc, pas très Vincent Collet, ça, comme...
Ouais, c'était bien différent, on faisait pas de système, c'était vraiment, t'as la balle, tu cours, tu vois, marqué. Donc, ouais, c'était différent. Après, je suis plutôt rapide, athlétique, donc ça me correspond un peu, tu vois, donc c'était facile.
On a l'impression que ce basket d'espace, de rapidité, ouais, de contre-attaque et tout, toi, tu t'y intègres facilement. En plus, tu as prouvé que tu pouvais mettre quelques tirs à trois points. En fait, le jeu de la NBA, le jeu open court, c'est exactement ce qui te convient.
Ouais, c'est ça. Et puis, je regardais tellement quand j'étais petit avec mes potes, on reproduisait les actions et tout. Donc, ouais, je pense que c'est juste naturel, tu vois. C'est comme ça, ça m'est venu naturellement.
On va le voir en statistique. Tu fais une saison à plus de 8 points par match. C'est bien pour un rookie, mais on a quand même l'impression que tu as gagné le respect et l'admiration de tes adversaires et de tes coéquipiers par ta défense.
Ouais.
Parlons un petit peu de ce mindset qu'il faut avoir quand tu arrives en NBA, de se dire ok, maintenant je veux devenir un défenseur élite.
Ouais, c'est ça, c'est plus une mentalité, hein. C'est vraiment une mentalité, c'est pas vraiment tes habilités, etc. Donc moi, quand j'arrive sur le terrain, je me dis bon, je me donne à fond, personne marque, et puis voilà, s'il marque une fois, il marquera pas deux fois. Donc ouais, c'est ça, je rentre sur le terrain, je suis à fond, je me concentre, je fais les choses comme il faut les faire, et puis voilà, c'est pas si difficile que ça.
C'est la ligue où il y a les plus beaux attaquants, les meilleurs attaquants du monde. J'imagine que tu as dû avoir des soirées plus compliquées que d'autres quand même.
Ouais, non, il y en a eu, hein, je vais pas te mentir. Il y en a eu, franchement.
Le fameux, il a marqué une fois, il marquera pas deux. Bon, il a marqué 14 en fait.
4-5 fois, ouais, c'était chaud. Mais ouais, il y a des mecs vraiment, ils savent aller sur leur spot, ils savent ce qu'ils veulent en avance, ils sont vraiment, vraiment forts, quoi. Ils font ça depuis des années, donc j'apprends encore. Après, il y a des soirées, comme tu dis, c'était dur, hein. C'était dur, mais le deuxième match, j'étais toujours meilleur, donc c'est ça qui compte.
Tu penses à quelle soirée, à quel joueur en particulier qui t'ont vraiment impressionné?
Justement, pas Brandon Graham, il m'avait vraiment choqué, hein. Il m'avait choqué, il mettait tout ce qu'il voulait, quand il voulait. J'étais là, je contestais, il était tellement long, il avait des longs bras, moi aussi j'ai des longs bras, mais lui c'était en plus il est encore plus grand que moi. Donc premier match, ouais, je crois qu'il en a mis 40. Je me suis dit bon, deuxième match, il va falloir changer de tactique, je sais pas, faut faire un truc. Et deuxième match, bah j'ai fait un meilleur taf, on a failli gagner, dommage, mais ouais, franchement Brandon Graham, il m'avait choqué.
Mais c'est ce que disait Popovic, c'est ça aussi la NBA, c'est de jouer régulièrement contre les mêmes personnes et du coup les connaître après. Et c'est comme ça aussi qu'on devient un défenseur d'élite, c'est parce qu'on sait chaque soir contre qui on va jouer, parce qu'on les a joués 8, 9, 10, 15, 20 fois en carrière.
Ouais, c'est ça, exactement. Même moi qui les joue deux fois, deux ou trois fois, je sais pas. En plus, tu vois, avec le staff, ils font vraiment un travail sur la vidéo, tu vois. Donc, t'as ta tablette quand t'arrives dans le vestiaire et tu vois ce qu'il aime faire, tu sais combien de pourcents il va à droite, combien de pourcents il va à gauche. Donc, vraiment, il te facilite la tâche, quoi. Et tu le joues une fois, tu dis, ah, ça, il n'y avait pas marqué, donc je vais essayer de faire attention la prochaine fois et ça devient facile.
Est-ce que les Wizards, la franchise, le front office, bon, le coaching staff, on va en parler aussi, il y a eu des changements, mais est-ce que tu as la sensation qu'ils t'ont pris pour devenir un profil en particulier? Ou est-ce qu'ils t'ont pris parce que tu as un potentiel énorme et qu'on verra un petit peu où est-ce que tu peux aller?
Ouais, je pense qu'ils m'ont un peu pris pour mon potentiel quand même, parce que ils savent pas vraiment ce que je peux atteindre, quoi, quel est mon plafond. Donc ils sont là, ils me disent un peu va sur le terrain et montre-nous, quoi. Montre-nous ce que tu peux faire, parce que bon, on sait que tu as du talent, etc., mais il faut que tu nous montres, parce qu'on sait pas vraiment de quoi, quel est ton plafond, quoi, où tu peux t'arrêter. Donc ouais, je pense qu'ils m'ont vraiment pris pour voir de quoi j'étais capable, quoi.
Tu as ressenti la confiance au jour le jour de la franchise?
Ouais, directement. Même le premier entraînement que j'ai fait, le GM, il est venu me parler et tout, j'étais un peu timide, tu vois. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu jouer bien meilleur que ça. Je sais pas, tout ce qu'ils font là, tu peux le faire. Donc vas-y, fais.
Et quand ils déclarent, parce que c'était une saison compliquée collectivement pour les Wizards, le projet a du mal à redémarrer collectivement, hein, et qu'ils disent tout le monde est transférable sauf toi.
Ah, ça fait du bien, hein, j'avoue. J'avoue, ça fait du bien, parce que la période des traits, tu vois que tout le monde est un peu stressé, etc. Et moi, bah, j'étais à l'aise, quoi. J'allais à la salle, je faisais mes trucs, je me prenais vraiment pas la tête.
Avant que ça sorte dans les médias, ils te l'avaient dit en direct?
Non, même pas. J'ai vu, je crois que c'est un pote qui m'a envoyé un truc comme ça, mais même, je me faisais pas violence, parce que je sais que j'avais beaucoup parlé avec eux, etc. Ils étaient vraiment du genre, bon, d'ici la fin de saison, il va falloir que tu fasses ça, etc. Ils me parlaient vraiment pas de la trade deadline.
Cette année, il y a eu un joueur aussi qui a beaucoup marqué le coup en disant Bilal bravo, Bilal va faire plus, Bilal génial. C'est Kyle Kuzma qu'on a découvert un peu aussi en leader finalement de cette équipe, lui qui a toujours eu des rôles de scoreur dans d'autres équipes. Il a dit, toi c'est une éponge, il veut devenir un très bon joueur, il est très mature, on voit qu'il sait jouer, il joue avec une telle maîtrise qu'il ne fait pas trop d'erreurs. On se souvient qu'il était venu à Cholet l'année dernière quand vous avez perdu au buzzer dans ce match fou.
Commenté par Farcib.
Ouais. Commenté par nous. Exactement, on était tous là. Parlons un petit peu de ta relation avec Kyle Kuzma, qui est aujourd'hui un vétéran, mais qui n'a pas tout à fait le même profil que toi, qui est vraiment un scoreur pur, qui a un peu le terrain en pente, comme on dit. Parlons un petit peu de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau Kyle Kuzma. Parlons un peu de ta relation avec lui.
Ouais, vraiment. Déjà, on se disait que la coïncidence a été folle, parce qu'il était venu à Cholet, et j'atterris au Wizards. Du coup, le jour même, il m'a texté, il a dit « Ah ouais, tu vois, c'est un truc de fou, comme quoi le destin. » Et il m'a direct pris sous son aile, hein, directement, dès que je suis arrivé à Washington, même si on n'était pas à la salle, il m'a emmené genre chez lui ou faire du shopping, parce que grand mec des fringues, celui-là.
Un sapeur.
Ouais, grand sapeur. Donc ouais, vraiment, il m'a vraiment mis à l'aise, tu vois, dès que je suis arrivé à Washington. Et après, comme il dit, ouais, il me dit « fais plus », à l'entraînement. Il me disait, mais vas-y, monte-nous encore plus et tout. Donc, ouais, vraiment, bon gars.
Ça, c'est intéressant, ce fait qu'il te dise fais plus. Mmh. Parce que, mine de rien, on a l'impression que tout glisse pour toi. Ouais. T'étais en espoir il y a 2 ans, tu dominais, t'es arrivé chez les pros, on a l'impression que t'avais 8 ans de pro derrière toi, t'arrives en NBA, tu fais une première saison où tout se passe bien, tu fais le Rising Star Challenge. Mais est-ce que finalement, le fait que ça soit, que tout ait été entre guillemets simple, entre guillemets, évidemment.
Fluide.
Est-ce que quelque part aussi tu te dis qu'à un moment donné ça risque d'être un peu plus dur et qu'il va falloir que tu ailles piocher des trucs dans lesquels t'as pas encore pioché?
Ouais, bien sûr, je m'y attends, hein, tout le monde passe par là, donc je me mets pas plus de pression que ça, tu vois, mais je sais que ça va arriver dans tous les cas, et je travaille le plus possible pour essayer d'éviter ça, hein, comme j'ai su le faire, et puis voilà, on verra.
Tu parles de Kyle Kuzma et son rôle de leader, etc. Dans ce vestiaire, qui prenait la parole, qui était un peu au-dessus de la mêlée, en tout cas quand on parlait de leadership?
Ouais, Kuzma beaucoup, hein. Okay. Mi-temps, peu importe quand, ouais, il parlait beaucoup. T'avais Thaïs aussi sur la fin d'année qui parlait énormément, Jordan Poole qui parlait beaucoup, mais le mec qu'on parle pas assez, je pense, c'est Anthony Gill, c'était vraiment le gars.
Il joue très peu.
Ouais, même s'il jouait très très peu, le gars, il était tout le temps à fond, tout le temps investi. Quand il y a un mec qui sort, il va le chercher à la table de marque, il check, il fait checker tout le monde. C'est vraiment le gars, quoi, vraiment.
Il en faut comme ça quand NBA. Ouais, clairement. C'est un petit peu ce que fait Thanasis Antetokounmpo.
Ouais, voilà,
d'ailleurs, on en parlait dans
ouais,
une
c'est clair. Mais tu vois, dans cette saison compliquée, on se pose toujours de la question, nous, avec nos yeux un peu extérieurs à tout ça, tu dis, mais il n'y a personne qui drive ce vestiaire, il n'y a personne qui va être moteur comme ça, tu vois. C'est une équipe jeune avec un projet, un peu compliqué pour l'instant. Toi, comment tu t'y retrouves? Tu essaies de tirer ton épingle du jeu sans penser aux autres, ou est-ce que, mine de rien, le projet collectif, c'est quelque chose auquel tu es attaché?
Ouais, je suis attaché. J'ai envie de gagner, quoi. J'ai pas envie de perdre. Donc, bien évidemment, tu peux pas gagner tout seul. Donc, faut penser à tout le monde. Et ce que j'essaie de faire, c'est bien évidemment travailler sur moi. Le meilleur je suis, le meilleur l'équipe sera. Donc, j'essaie de travailler. Je dis aux autres de travailler. Tout le monde travaille pour qu'au final, l'équipe soit meilleure.
Comment ça doit pas être simple? Là, tu sors d'une année dernière avec les Mets où il y avait une stabilité incroyable autour de Vincent Collet. Vous arrivez en finale, c'est extraordinaire, vous perdez contre une équipe qui est surdimensionnée pour la proie. Cette année, tu arrives dans un projet où il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de défaites, vous les enchaînez, il y a un changement de coach aussi en milieu. Comment tu l'as vécu, ça?
Ouais, c'est vrai que c'était bien différent, hein, changement de coach, etc. Comme tu dis, premier de toute ma carrière, donc ça m'a fait bizarre en pleine saison. Mais c'est des choses qui arrivent, quoi, comme je le dis, hein. Et on est une équipe en reconstruction, donc tout change à tout moment. L'année prochaine sera déjà bien plus stable. Et faut s'y faire, hein. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres équipes comme OKC, Orlando qui sont passées par là, et regardez, maintenant ils sont en play-off. OKC qui déroule sur tout le monde pendant la saison, donc franchement.
J'aimerais qu'on ouvre un petit chapitre Jordan Poole.
Ouais.
Alors, quand il était aux Warriors, moi, j'avais l'habitude de dire que c'était l'un des joueurs les plus talentueux de toute la NBA. Je le vois faire des trucs qu'il est peut-être le seul à pouvoir faire. Je l'imaginais en allant du côté des Wizards. Pourquoi pas? Je rêvais être à 25 points au plus. La saison s'est mal passée sur toute la première moitié de saison. Au moins, raconte-moi un petit peu comment lui, il l'a vécu et toi, comment tu l'as vécu à côté, parce que il avait des grandes attentes, surtout pour lui-même, et finalement, bah, ça fait un peu pchit.
Ouais, comme tout le monde le sait, bah, je suis à côté de lui dans les vestiaires, tu vois, donc on parle énormément. Dès qu'il y a des trucs qui me tracassent, son échange, tu vois, c'est vraiment mon gars sûr, quoi, dans les vestiaires. Et ouais, bah, tu vois, il était un peu frustré au début de saison parce que, bien évidemment, il n'arrivait pas à jouer. C'est un basketteur, tu veux toujours bien jouer. Et au fur et à mesure de la saison, on parlait, je disais, mon gars, tu sais que l'année dernière, bah, tu étais sur le banc, c'était pas la même chose. Là, on demande de prendre en main l'équipe. Bien évidemment, il y a un temps d'adaptation, donc voilà, faut s'y faire. Et voilà, au fur et à mesure, il a compris que bah ouais, c'est pas le même rôle, va falloir donner plus échanger avec les coéquipiers, parce que c'était pas un grand leader au début de saison. Il a appris à le faire maintenant dans les vestiaires, y parler. Donc voilà comment il a réussi à être meilleur d'ailleurs en fin de saison. Et voilà, je trouve qu'il continue à s'améliorer, et voilà, il commence à trouver vraiment sa place.
Comme quoi, ça s'apprend, devenir un go-to-guy d'une franchise.
Ouais, c'est ça.
Quand tu joues des Warriors, il y a Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green,
t'as juste à jouer au basket. Bah,
voilà,
tu sais,
ouais, oui. Basket, là, quand on te fait venir pour être un numéro un leader, c'est-à-dire sur et en dehors du terrain, il n'était pas encore prêt quand il est arrivé. Ouais. De ce que tu me dis, il est plus prêt pour la prochaine
c'est
saison.
Ça. Ouais, c'était pas facile, c'est clair. En plus, tu vois, il y a eu beaucoup de nouveaux dans l'équipe d'un coup. Tout le monde apprenait à se connaître, donc ouais, on voyait que lui, mais tout le monde à côté ne se connaissait pas, donc c'était chaud un peu. Et comme tout le monde mettait tout sur lui, bah, le gars,
c'est vrai qu'il a
paratonnerre un peu.
Et moi, le premier, je tombe dessus parce que je trouve qu'il a des attitudes. Tu peux rater des paniers. Je trouve qu'il avait des attitudes par moment qui n'étaient pas des attitudes de leader, se mettre à côté du huddle, ne pas participer au temps mort. Mais c'est vrai que sur la fin de saison, il semblait avoir gommé ça. Et s'il arrive à maîtriser ça, alors on sait que c'est un talentueux. Donc écoute, ça serait intéressant de voir ça la saison prochaine. Tu fais une bonne saison rookie, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire de mieux?
Peut-être, comme disait Kuzma, peut-être tenter un peu plus, tu vois. Parfois, j'étais un peu, on va pas dire passif, mais j'essayais pas, tu vois. Donc... ouais, tenter un peu plus. Je sais que j'aurais pu faire des choses que j'ai pas pu montrer, mais bon, c'est pas grave, je les montrerai l'année prochaine. Et ouais, juste tenter un peu plus. Ouais.
Comment tu l'expliques ça dans ton état d'esprit? J'imagine qu'en cours de saison, déjà tes coéquipiers, le coach, etc., te disaient vas-y, n'hésite pas à oser. Et pourquoi est-ce que t'as pas encore réussi à le transposer dans tes matchs?
Je pense qu'au début de saison, c'était peut-être un problème de communication avec, je sais pas, le coach, les coéquipiers, etc. On me disait pas vraiment de vas-y, tente, tu vois. Mais à partir d'un moment, quand j'ai commencé à parler avec le GM beaucoup plus, quand je me sentais plus à l'aise dans l'équipe, les coachs, etc., ils me disaient ouais, vas-y, maintenant tente, montre-nous des choses. Défensivement, tu fais le taf, maintenant t'as le droit de te faire plaisir en attaque. Et c'est à partir de là que je me suis dit bon, vas-y, je vais essayer, et je commençais à faire de meilleurs stats.
Ça a été quoi les premiers axes de travail et les derniers individuellement, toi, justement, pour franchir ce cap du joueur discipliné que tu es, pour devenir quelqu'un aussi peut-être d'un peu plus surprenant avec les qualités que tu as?
Quand je suis arrivé à Washington, je travaillais vraiment énormément le tir parce que c'était la chose sur laquelle ils avaient des doutes. Et tu vois, tout est différent, la ligne à 3 points, elle est beaucoup plus loin, etc. Du coup, ça fait qu'au début, je me disais ah ouais, quand même, c'est loin, c'est vraiment loin. Et je m'entraînais tous les jours, j'allais à la salle, répétition sur répétition. Et arrivé au début de saison, mes stats à 3 points, c'était correct. Et à partir de là, ils ont commencé à me faire travailler un peu le ball handling et tout pour pouvoir prendre les pick and roll, ce que j'ai pu faire de plus en plus à la fin de saison avant de me blesser. Et voilà, c'est la chose sur laquelle je continue à travailler. Et maintenant, quand je me remets de ma main, je vais pouvoir faire la réhab, continuer sur mon ball handling, et on verra.
Sur quoi tu veux, toi, bosser? T'as envie de devenir quel joueur? Tu vois, quand tu penses à des modèles, sur qui tu te bases?
Je me base beaucoup sur Paul George parce que c'est un two-way player, tu vois, c'est pas forcément parce qu'il est smooth, je sais pas quoi, c'est vraiment parce que il attaque comme il défend, et c'est vraiment le joueur que j'ai envie d'être, être capable d'avoir la balle en main, commencer l'action avec la balle, prendre les pick and roll et tout, et le côté du terrain, défendre sur les meilleurs joueurs tous les matchs, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire.
C'est intéressant parce que en début de saison, on avait fait un débat sur toi, parce qu'on avait été bluffé encore une fois par ton début de saison. On s'est dit, et on s'était posé la question avec Arthur, comment on le voit? Ouais, un peu un Nico Batum. Ouais, on le voit un peu comme un free handy, qui a un rôle simple, mais où faut défendre, faut mettre des tirs à 3 points, et c'est un rôle en plus où on te paye en NBA pour ça. Mais je suis content de t'entendre dire qu'en fait, ben toi, tu t'as pas spécialement envie d'être un fluency. Tu veux bosser des pick and roll, tu veux jouer, tu veux être un initiateur, tu t'inspires de Paul George. C'est parce qu'on t'avait peu entendu là-dessus.
Ouais, je te mens pas. Même quand je voyais ça là, quand mes potes m'envoyaient ça, tu veux être un fluency et tout, je disais non, vous savez très bien que j'ai pas envie d'être ça. Et ouais, ça me tendait un peu. C'est ça qui me motivait aussi, tu vois. J'allais à la salle, je me disais bon, on va voir si je vais être un fluency. Et c'est comme ça que bah j'arrive à être meilleur tous les jours.
Moi, j'ai envie que tu joues d'un contre un.
Ouais.
Moi aussi. Là, je te vois, oui, courir, galoper, mettre des dunks, tu nous as régalé là-dessus. L'axe d'après, c'est tenter
exactement
des tirs un peu plus difficiles, tenter de rentrer dans des 1 contre 1. Faut ouais, déjà faire la bascule psychologique.
C'est ça, c'est sur ça aussi que je vais travailler cet été. Bien évidemment, comme tu dis, la bascule psychologique, c'est important. Et aussi ma création de tir, parce que ouais, pour jouer 1 contre 1, il va falloir créer ton tir. Hein.
Clairement.
Donc voilà. Donc ouais, c'est pour ça que je travaille le ball handling, mon tir, pull-up jumper et tout. Donc ouais.
Tu fais d'un contre un beaucoup à l'entraînement?
Énormément, ouais. Je faisais énormément avec Denis Abdia.
Qui gagnait?
Je gagnais beaucoup, hein. Je gagnais beaucoup, ouais. Après, il était costaud des
fois. Là, la prochaine, on va lui demander, hein.
T'inquiète. Non, ouais, je gagnais beaucoup.
C'est vrai? Ouais. Bon, ça, j'aime bien. Il y a une question, du coup, de Stephen Brun, pour revenir sur ton tir. Comment tu expliques que ton pourcentage soit meilleur en NBA par rapport au championnat de France, alors que la ligne est plus loin, etc., etc.?
Bah, je pense que c'était le travail. Quand je suis arrivé, comme je te dis, j'ai fait tellement de répétitions, même, j'allais seul à la salle, j'avais la machine à tirer, là, et puis je tirais. Et voilà, à force, bah avec le travail, c'est sûr que ça va rentrer, hein. Ouais.
Avec un petit peu de temps, on dit souvent que l'adresse, ça vient aussi avec l'âge et l'entraînement. Donc un peu de muscu, un peu de tir, normalement, ça va devenir un bon shooter, notre gars.
J'espère encore qu'elle arrive à 42 ans, mais bon, ça c'est. Moi, j'avais une question. On sait qu'en NBA, on dit beaucoup qu'on s'entraîne très peu parce qu'il y a beaucoup de matchs enchaînés. Toi, de ce que tu me dis, tu t'entraînes beaucoup. Tu arrives à trouver quand même du temps pour te mettre des vraies séquences de travail individuel?
Ouais, j'arrive à trouver. Sur la fin de saison, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, c'est là que la fatigue vient. Il faut faire attention à ne pas se blesser, même si j'ai raté.
Merci, Démarre.
Et ouais, du coup, sur la fin de saison, c'est là qu'on s'entraîne beaucoup moins. Même en équipe, on fait plus des sessions vidéo sur les matchs, sur les choses qu'on a mal faites, qu'on a bien faites. Donc voilà, les vidéos, quoi. Mais ouais, individuellement, bah, quand tu veux, tu appelles un coach, tu dis, bon, là, j'ai besoin de m'entraîner, il sera là, il sera présent, et voilà, quoi. Tu fais ta séance.
Okay.
Il y a la draft qui va bientôt arriver.
Ouais.
Il y a beaucoup de Français et parce que donc il y a beaucoup de Français, il y aura aussi potentiellement un pic important pour les Wizards. Tu vas regarder ça avec attention. Tu regardes encore toi qui étais l'année dernière dans la peau de ces mecs-là. Tu vas regarder un peu ce qui va se passer.
Ouais, bien sûr. En plus, la plupart des gars, j'ai joué contre ou avec. Donc ouais, je suis vraiment curieux, quoi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je serai même à la loterie à Chicago, donc on verra.
C'est toi qui vas tirer? Ah ouais, c'est bon ça.
J'aime
bien quand les jeunes joueurs vont comme ça porter chance à leur équipe. Très bien, on va vous souhaiter un bon tour de choix, un bon pic, pardon.
Bonne chance. Hein,
ouais. Alors, t'es pas GM, mais du coup, t'es au cœur de cette équipe. Qu'est-ce qu'il faudrait cet été comme profil de joueur à cette franchise?
Je pense que peut-être un intérieur, parce qu'on a beaucoup sur les postes intérieurs.
On a perdu Gafford, hein.
Ouais, on a perdu Gafford, donc voilà, quoi, un bon intérieur défensif, polyvalent, qui serait capable de nous aider. Après, on sait pas ce qui va se passer comme mousse cet été, ça se trouve, on va perdre l'extérieur, donc on aura besoin d'extérieur, donc franchement, ouais, on verra ce qu'il décide de faire.
Bon, avant cet été, il y aura la draft, certes, mais il y aura aussi les Jeux Olympiques. Parce que j'imagine que dans ta vision de ta saison, Paris, chez toi, les Jeux Olympiques, tout le monde parle que de toi depuis un an après la Coupe du Monde en se disant bah, on défend pas bien, il nous manque Bilal Koulibaly, hein, c'est sorti comme ça. J'imagine que t'es surexcité à l'idée de pouvoir prétendre faire les Jeux Olympiques avec cette équipe de France.
Non mais tellement, ouais, j'y pense tellement. En plus là, maintenant que la saison est finie, je fais que j'y pense tous les jours. J'ai hâte de me remettre, de pouvoir m'entraîner et voilà quoi, être à 100% au camp pour pouvoir me faire ma place.
Tu as eu des contacts avec Vincent Collet, ton ancien coach en même temps, ouais. Pour parler des JO?
J'en ai parlé avec lui pendant la saison, quand j'étais à San Antonio, il avait fait un petit tour, tu vois, un peu partout, il jouait contre Victor, donc c'était le bon moment. Et ouais, j'en avais parlé un peu avec lui, il était content de ce que je faisais, mais bon, il m'en a pas dit plus pour les
JO. Il a pas de garantie sur une place.
Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec les darons de l'équipe de France, avec Nico Batum, avec Rudy Gobert, avec Evan Fournier, quand tu les as croisés, est-ce qu'ils t'ont dit ce serait bien que tu sois là?
Ouais, j'en ai parlé avec eux après les matchs, souvent on s'échange quelques mots et ils étaient contents de ce que je faisais cette saison, donc ils me disaient bon, j'ai hâte de te voir cet été et tout, voir ce que tu vas faire en camp, etc. Donc ouais, on a échangé.
Et puis potentiellement cet été, ça te permettrait de revivre des choses cool que t'as vécu l'année dernière, c'est de rejouer avec Victor.
C'est clair, ouais, c'est clair, rejouer avec Victor, ça va me faire du bien, que j'ai vécu l'année dernière et quand j'étais plus petit aussi, donc ouais, non, ce serait cool.
On imagine que vous êtes encore en discussion pendant la saison, vous continuez à échanger.
Ouais, surtout quand on est à deux doigts de se jouer l'un contre l'autre, tu vois, la veille, là, on se chambre un peu. Mais ouais, on échange beaucoup,
Parce que tous les deux, cette année, vous avez quand même beaucoup perdu. Vous êtes passé d'une équipe, d'une saison où ça gagne, où vous êtes une surprise extraordinaire, à des projets où ça perd et vous apprenez dans le dur, quoi.
Ouais, c'est ça, on était un peu dans le même banc, quoi. Donc on apprenait, c'est pour ça que aussi on a échangé, mais pas trop non plus, parce qu'on était vraiment concentré sur la saison. Et on continue à prendre des nouvelles l'un de l'autre. Même quand je me suis blessé, il m'envoyait un message et tout, donc tranquille.
J'avais une dernière question, moi.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
C'est pas une question même, c'est une requête. Okay. Je vais en parler à tes agents, évidemment, parce que ça passe comme ça. Moi, j'aimerais, Bilal, on fait une émission qui s'appelle Undrafted tous les mercredis sur la chaîne YouTube NBA Europe. Je fais un peu de promo pour ce qu'on fait. Faut bien bouffer, quoi. Bah ouais. Il n'y a jamais de Français qui ont participé au concours de dunk.
C'est vrai, ça. Peut-être que je vais y remédier, hein. On verra.
Pardon ?
Ah, on verra.
Je vais pas demander à Ivan Fournier. No disrespect, Ivan. On imagine plus sur un concours de tir à 3 points. J'ai envie de te voir au concours de dunk.
Ouais, ça peut être vraiment bien. C'est vrai qu'il y en a pas, il y a aucun Français qui l'a fait, hein. Donc, ouais, faut se travailler Matrix un peu et on verra si j'irai.
Tu as déjà pensé?
J'ai déjà pensé. Même cette année, j'y pensais. Mais bon, tu vois, c'était un peu ma première année et tout. J'étais en mode, je vais me faire petit. Donc, on verra. À partir de l'année prochaine, quand je serai déjà bien plus à l'aise, on verra.
Comment ça marche d'ailleurs?
Au San Francisco, non?
Au San Francisco. Ouais. Comment ça marche? Parce que oui, faire un concours de dunk à Indianapolis.
C'est pas pareil.
San Francisco, c'est un peu plus de gueule. Mais, tu connais le process pour s'inscrire? Bon, j'imagine que ça passe avec les agents, avec la ligue en direct, mais toi tu c'est quoi, c'est le joueur qui doit dire j'ai envie de le faire, t'es au courant ou
je sais pas, j'avais entendu des rumeurs comme quoi cette année ouais il y en a qui ont demandé pour se présenter et ouais après je crois qu'ils t'envoient des messages pour te présenter et tout si tu veux le faire, ils te demandent ton consentement et après tu dis oui ou non.
T'en as mis des grosses cette année, un peu des dunks?
Ça va, j'aurais pu faire mieux parfois en contre-attaque, mais ouais j'en ai fait quelques-uns, pas mal.
Je t'ai quand même signalé avec ça, t'es trois bons dunks.
Ouais, non ça va, il y en a ils en ont pris sur la tête un peu quand même.
Ma dernière question pour moi, c'est est-ce que t'as conscience d'être le chouchou des Français? C'est-à-dire que, alors bien sûr, on peut parler de Victor qui fait des trucs hors normes et tout ça, mais tout à l'heure, je te le disais un peu en off, t'as aucun hater à l'heure actuelle. J'espère que ça va durer, même si tu sais comment ça se passe parfois. Mais ouais. Est-ce que tu te rends compte que tout le monde t'adore dès qu'on parle de Bilal? Tout le monde a les yeux comme ça en disant « Ah ouais, il fait kiffer, franchement, c'était tellement inattendu d'être septième, d'être bon comme ça en première année. » Ça, tu le ressens, ça, cette espèce d'amour du public français?
Ouais, franchement, je l'ai ressenti, justement. Pas même après la draft, j'ai eu tellement de messages, que des bonnes choses, que ce soit français, américain, ouais. Mais vraiment, côté français, ouais, même mes potes, tu vois, je suis pendant la saison, je regarde pas trop les réseaux, mais mes potes, ils m'ont envoyé des trucs, hein, mais ça a abusé, je trouve pas un gars qui dit un truc mal de toi et tout, donc ouais, franchement, c'est cool.
On peut creuser si tu veux.
Non, c'est bon.
Pour pas que t'aies trop le boulard, tu vois. On veut que tu restes les pieds sur terre, mais tes parents sont là pour ça.
Moi, j'en connais deux, trois, ils sont sur mes côtes, je peux peut-être te les donner.
Des fois, des Clippers, peut-être.
Écoute, pour l'instant, ils sont un partout, gars. Oui. Merci, Bilal, c'était un plaisir de savoir. C'était cool. Ça fait très envie qu'on avait envie de te parler de tous ces sujets-là, de la NBA, évidemment, de l'équipe de France, puis de toi personnellement. Donc on est ravis de t'avoir accueilli ici dans
les studios. Moi aussi, ravi. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous, les gars.
Ouais.
Voilà, un petit maillot.
Oh, attends, tu régales. Bravo. Attends, on l'a même pas vu.
On lance le maillot Maradona.
Bilal, signé, trop bien. On va l'encadrer.
Tu seras
à côté de Will Chamberlain, de Kobe qui a signé lui-même. C'est Kobe qui l'a vraiment signé.
C'est beau, ça.
Tu seras à côté. Merci, Bilal.
J'attends de voir ça.
En plus, sache que normalement, on devait en acheter un ce matin. Tu nous signes vite fait, mais c'est encore mieux parce que c'est un maillot de match. Je le sens tout de suite.
Trop bien.
Incroyable. Merci, Bilal.
Pas de problème.
Le chouchou des Français.
Tu m'étonnes. Avec les cadeaux qu'il fait.
Tu commences à avoir des cadeaux de nos gars.
Moi, je t'aimais pas trop, mais là, pour le coup.
Tu sais, il y a un dernier truc qui me fait kiffer, c'est que toi, tu fais partie de la première génération qui nous regardait quand vous étiez, enfin, avant d'être des athlètes professionnels et tout. Et donc, de vous recevoir, vous qui nous regardiez il y a quelques années maintenant, franchement, nous, ça nous fait toujours un petit truc un peu différent. Donc, pour ça, on te remercie.
C'est incroyable.
Ça nous empêchera pas de te critiquer si tu fais des mauvais trucs, sache-le. Okay, tu sais qu'on est comme ça, tu sais.
Ouais, je sais.
Bon, voilà, très bien.
C'est ça qui est bien.
Tu le regardes encore aux États-Unis?
Bien sûr.
T'as vu? Quelqu'un.
On a gagné, quoi. Voilà. Papa, maman, je vous avais dit, il fallait pas m'abandonner. Ah, non, c'est pas vrai. Ils sont là, ils m'aiment. Ils me font des bisous. C'était pour faire la blague. Merci Bilal et bonne continuation. On remercie évidemment Comme Sport et les papa et la maman de Bilal qui sont venus aussi ici. Voilà, ils font ça en famille. Merci en tout cas encore à Comme Sport et la suite des interviews arrive très vite. On a pas mal de choses à vous proposer pour la suite. Ciao ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.